là, ça supposait, alors là, j'accélère, je termine vraiment, je vous avais mis un exemple quand même pour se rapprocher un peu des archives et des documents, un exemple certainement qui illustre le problème des fonctions écran de certains fonds, vous voyez, c'est un morceau de l'enquête qui n'a pas été pris dans l'opération menée par elle-même, d'ailleurs, hein, en 2004, hein, quand je vous ai dit le fonds à l'Institut catholique, c'est elle-même qui avait sélectionné un certain nombre de choses et les apporter. Ben là, par exemple, voilà une boîte enquête 51, comme ça, ça nous permettra de voir la qualité du classement. Une boîte oubliée avec tout ce qu'on peut imaginer. Là, vous voyez, on voit bien que le curé pousse sur le granit et l'instituteur sur le calcaire. Bon. État de l'enquête au premier au top 51. Là, c'est vraiment purement pour... Voilà. Mais aussi des manuscrits inédits. Là. Alors là, très, très inédits, toujours dans des boîtes. Un commentaire d'Innocent IV sur l'apparatus d'Innocent IV, un pape du XIIIe siècle très important, avec des choses assez sublimes. Dernier segment, donc, toujours, et je termine, la recherche de l'intentionnalité. Parce qu'après tout, le confort et la relation qui s'était installée dans cet appartement vide avec les membres de la famille et la sociabilité, laissait tout de même planer cette question, c'est qu'après tout, qu'est-ce que lui, il avait voulu et qu'est-ce que Marthe avait voulu, puisque Marthe, a priori, avait voulu sélectionner, commencer à sélectionner, mais en même temps, tous ces paquets, les a bien fait pour quelqu'un. Les légendes sur les cartons, les gros paquets épais, etc., elle ne l'a pas fait que pour elle, pour se souvenir qu'il y a dedans, il y a l'épée. Surtout qu'elle l'a ficelé, en plus. Donc, il y a quelque chose là. Pourquoi noter tout ça? Pourquoi faire tout soi-même tout ce travail, si ce n'est pas pour que, précisément, quelqu'un tombe dessus un jour et puisse se repérer? Alors, hormis, là aussi, le travail, un autre travail de relevé dans une des pièces, des rares pièces de l'appartement où il y avait des livres en bas, et qui, en fait... se révélait être, alors là, pour le coup, le bureau, l'espace de travail des deux dernières années, puisque tous les livres étaient soit quelques usuels, soit des livres reçus vraiment dans l'année 69. Hein, donc là, on était à nouveau dans la logique archéologique, etc. Voilà. Quelques manuscrits inédits ou plus personnels, donc possibilité même quasiment de reconstituer dans l'histoire de cet appartement des phases de travail ou là, en l'occurrence, le plan d'un texte qu'il n'a jamais écrit qui s'appelait Solitude du technicien, et aussi des plans de discours. Et j'en viens à ce qui va être, une conférence sur l'histoire des sciences humaines qui est assez drôle, et j'en viens à ce qui a été finalement le cœur de la collecte et le trésor, alors là, en grande partie caché puisqu'il était sous le lit, toujours dans des cartons. En paquet cadeau. Et c'était d'autant plus troublant que dans un des rares textes autobiographiques que Gabriel Le Braz a écrit, qui est publié d'ailleurs après sa mort, qui s'appelle En Bretagne vers 1900, parce que ce garçon est breton, comme son nom l'indique quand même assez fortement, il dit oui, finalement, c'est un texte très drôle d'ailleurs, il accepte de raconter son enfance à Paimpol. Sous la pression, bon là c'est le pacte de convocation classique, sous la pression, il dit des choses très intéressantes, et puis surtout il avait dit, mais ce que je croyais être au départ une simple métaphore, la source invisible de tout ce récit, hein, qui fait 5 pages, hein, c'est vraiment c'est rien du tout, hein, puis c'est dans les cahiers des amis de Guérande, hein, donc vous voyez, faut évidemment le trouver. La source invisible de tout ce récit est dans ma mémoire, la principale source matérielle dans un tiroir, et là je pensais à la bête métaphore, genre la mémoire comme tiroir, etc., etc. Depuis près de 60 ans, je rédige chaque nuit, avant d'éteindre ma lampe, un bref récit de ma journée, et s'il y a lieu, des observations graves ou caustiques. Bon, alors, mais t'es dit, tout ce travail, c'est super, mais pour l'instant, soit c'est un bluff de sa part, le tiroir, ou métaphorique, soit, ça, malgré toutes les frontières dépassées par la collecte, celle-là ne sera pas dépassée. Puis pour finir, entre le carton et donc la sacoche, on tombe sur effectivement quelque chose qui avait été vraiment mis à part par Marthe Le Braz. On se rapproche, Gabriel Le Braz, carnet. Et effectivement, c'est une collection complète. Et là, c'est vraiment hallucinante parce que c'est la clé des clés de tous ces carnets quotidiens qui remontent à l'époque de l'adolescence, mais des carnets aussi de gestion. Exemple typique, livre à acheter et à étudier, ou à étudier. Donc quand il avait 17 ans, en l'occurrence, donc, pour informer la formation, ça peut être relativement intéressant, mais effectivement, des carnets, et pas simplement des agendas. Deux séries, en fait, une série d'agendas classiques, mais aussi le carnet, ce fameux carnet du tiroir, hein, celui du deuxième temps de l'observation caustique ou drôle. Et d'ailleurs, là, il explique très bien le système. Carnet commencé le 8 septembre 1946, l'agenda 1946 ayant été perdu le 5 septembre, je renonce à écrire, parce que c'est en style télégraphique à écrire, journal, dans ce cadre, est étriqué. c'est intéressant. Pour lui, l'agenda, c'est un cadre étriqué d'écriture. Et une fois de plus, quelqu'un qui n'a pas écrit une seule ligne sur lui, hormis cet article dans les cahiers de Guérande. Hein. Or, il a fallu un accident pour une raison sensible, l'absurde égalité des jours. Pour me rendre sensible, pardon, l'absurde égalité des jours. Oula, pardon. L'absurde égalité des jours. Résolument, je tiendrai mon journal dans un cadre plus ouvert et avec une autre forme que la chronologie. Donc là, il se trouve qu'en fait, c'est vraisemblablement même le moment où il a décidé de systématiser le carnet au-dessus du journal. C'est intéressant parce qu'il fait une opération de remémoration pour l'année 46, hein, vous le voyez, puisque l'agenda est perdu. Alors, pour vous dire, ces carnets, c'est quand même extraordinaire, puisque là, vous avez une journée. Par exemple, c'est très télégraphique, c'est le témoin, ça correspond exactement à ce qu'il dit, c'est avant tout les carnets d'un témoin, c'est-à-dire, il dit, voilà, si chacun de nous fait un voyage continu, du témoin chrétien, hein, chacun de nous fait un voyage continu, des rencontres singulières, une besogne constante, du berceau à la tombe. Si toutes ces expériences étaient comptées, nous en pourrions tirer une véritable histoire des sociétés. Et là, vous voyez, heure par heure, mais pas simplement ça, et là, c'était une comparaison, mais je passe avec ce qui est noté dans l'agenda à la même date et ce qui est noté à la même date dans le carnet, mais également les plans de table des réceptions, voilà. Et il y a toute une typologie de carnets, pas simplement des carnets chronologiques, effectivement, mais aussi les carnets de gestion, liste de cadeaux à faire, liste de correspondances, évidemment, à écrire, hein, avec d'ailleurs barré, voilà. Et aussi minutes de lettres, là, en l'occurrence, Brodel, c'est une minute. C'est la lettre a été envoyée, donc c'est la minute de la lettre, c'est le brouillon télégraphique de la lettre. En l'occurrence, là, ça parle en plus de sa femme. Et c'est terminé, c'est le dernier document.
Non, je voulais simplement vous interrompre pour ce point-là. En fait, ces photos photographiques, vous auriez pu les faire après la collecte.
Celle-là, oui, mais là, justement...
Il y a tout un ensemble comme ça de photographies qui peuvent être faites après collecte.
Complètement. Bah, là, de toute façon, dans tout ce que je vous montre, il y a des choses qui ont été... techniquement, il y a une partie des photos que j'ai prises après, pas dans l'appartement. Enfin, si, d'ailleurs, quasiment tout dans l'appartement. Mais de fait, ce qu'il y a, c'est que, par contre, c'est la temporalité de la collecte qui a permis de faire surgir ces massifs. Parce que dans la discussion avec... Parce que pendant que je travaillais sur les archives, le dimanche, les enfants venaient travailler sur les meubles ou sur les, enfin sur le, tout le reste de la culture matérielle, si vous voulez. Donc, mine de rien, il y a un lien. Il y a un lien très fort, en fait. Mais concrètement, le fait de concrétiser ces carnets, puisque, hormis de négocier le fait de pouvoir les faire basculer dans le fond, voilà, une fois que, à la fin, moi, j'avais une pièce réservée pour mettre tout ce que je prenais, bon, une fois que les choses étaient dans cette pièce, c'était terminé, je veux dire, d'une certaine façon. Mais tout de même, heureusement, ou pas heureusement d'ailleurs, on tombe un jour dans le secrétaire de Marc Le Braz, avec une de ses filles, sur un testament que personne ne connaissait et qui, vraisemblablement, n'a pas de valeur juridique, puisqu'il est de toute façon, il n'a jamais été bon. Alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est que dans ce testament, je ne rentre pas dans les détails, on n'a plus le temps, il y a quand même cette volonté de garder intacte la bibliothèque. Donc, ce qui, évidemment, retrouvé pas tout à fait vers la fin de la collecte, mais à peu près en son milieu, était un argument fort pour dire, voilà. Mais dans ce testament, il y a des choses assez fascinantes. D'abord, c'est le testament d'un chrétien, mais, et ce sera mes derniers mots, ce qui est très curieux, c'est que, je le répète beaucoup, hein, ouais.
De mon côté.
c'est que, bon, il y a... C'est vraiment un chrétien qui parle, et effectivement, la foi de Gabriel Le Braz n'est pas très étonnante. J'ai eu la chance d'avoir des maîtres et des amis d'une rare qualité, d'aimer passionnément la recherche et l'enseignement. Je quitterai avec regret des êtres chers et avec plaisir un monde infernal. Ce qui est voilà. Et puis, vous voyez, il y a même des dons en dessous à différentes institutions catholiques. Mais là où la collecte a révélé une autre intentionnalité ou une autre référence cachée, et c'est vraiment là l'épilogue, en quatre photos. C'est que depuis le début, traînassaient dans différents endroits des livres de Renan. Vous vous souvenez tout à l'heure, une dédicace d'Henriette Sicari, peut-être. Et il se trouve que ces livres de Renan, il y en avait même une bonne étagère, ou sur Renan, là, en l'occurrence. Et ayant fait un séjour de contrôle dans la maison de campagne près de Guérande, avec Brigitte Mazon, dès le début de la collecte, où je m'étais aperçu qu'il y avait évidemment un second bureau, mais plus de... J'en ai pas parlé, parce que... Bon, mais un second bureau d'estival, avec des activités plutôt liées justement à la Société des Amis de Guérande, mais aussi bon. Et dans ce second bureau, il y avait évidemment une autre Alors, il se trouve que par ailleurs, cette maison, excusez-moi, il y a une chapelle qui est dans cette chapelle. Il est dans la chapelle. Il est enterré dans cette chapelle. C'est sa veuve qui a voulu le transférer. Ça a d'ailleurs créé un lien avec le testament, puisque dans le testament, il demande d'être transféré, mais une fois, non pas 3 ans après sa mort, mais une fois que son corps sera réduit en cendres. Donc, on ne respecte jamais, de toute façon, les volontés. Donc, évidemment, la maison est un petit peu en ruine, mais vous voyez, elle est quand même assez importante. Donc, dans les marais de Guérande, je le répète. Donc voilà, des bibliothèques, et dans cette bibliothèque, au fin fond, donc, l'humidité des marais de Guérande, encore du Renan, et les souvenirs d'enfance et de jeunesse, qui sont clairement un des modèles, d'ailleurs, de ces souvenirs de Bretagne en 1900. Or, c'est assez curieux, parce que, effectivement, Hervé Le Bras, dans différents médicaments, avait évoqué la figure de Renan, sans que j'y prête trop attention, mais je vous rappelle tout de même que, certes, Renan est né à Tréguier, donc à un jet de pierre de Paimpol, et il se trouve que Le Bras a commencé au petit séminaire de Tréguier. Bon. Et le Renan est mort en 1892, tandis que Le Bras est né en 1891, donc ils se sont entrecroisés, d'autant que le Renan est mort à Rospapamont, à quelques kilomètres de Paimpol. Il est mort à Paris dans son bureau du Collège de France, hein, mais 3 semaines avant de mourir, il avait demandé à son médecin, l'histoire est belle, je la raconte, de le prévenir quand il allait mourir, parce qu'il ne voulait pas mourir en Bretagne, puisque Tréguier ne voulait plus de lui, étant l'incarnation diabolique de l'anticléricalisme. Je vous rappelle que Gabriel Le Bras est donc professeur de droit canonique et surtout conseiller pour les affaires religieuses au Vatican. Donc effectivement, trouver du Renan comme ça par-ci par-là, au début ça semblait être de la curiosité, puis ça avait fini par devenir une sorte de bizarrerie. Et donc, effectivement, c'est d'autant plus troublant qu'un jour, je me dis, à la fin de la collecte, ce serait quand même intéressant d'aller voir cette maison Renan à Tréguier, qui est la maison de son enfance, et Hervé Le Bras m'avait dit, oui, il aimait bien y aller, mais alors, c'est quand même bizarre. Gabriel Le Bras était spécialiste de la tradition romano-canonique, pas de la tradition renano-canonique. Bon, Renan, c'est quand même une figure. Il a passé sa vie, finalement, à parler contre Renan. Et quand on arrive au sommet de cette maison littéraire de Renan, inaugurée en 1947, qui est aujourd'hui dans un triste état, on emprunte un escalier pour la chambre d'études de Renan. Voilà, et ce sera mon dernier mot.
Bien. Merci Yann Potin pour cette communication bien stimulante à plusieurs égards. Donc ces relevés et cette cartographie lors de la collecte me semble effectivement quelque chose d'extrêmement important à effectuer durant ces opérations, notamment le côté cartographique. Hein, je dois dire ça, c'est quelque chose qui est régulièrement négligé par les gens qui font les collectes et c'est bien dommage. Pour avoir fait un certain nombre de reportages photographiques lors de mes collectes, je ne dirais pas personnelles, mais professionnelles, j'en ai relevé divers types. Il y a des relevés photographiques, enfin des reportages en quelque sorte photographiques pour donner un aperçu de l'état sanitaire des documents. C'est souvent assez spectaculaire. Hein. La photographie, comme vous l'avez vu, enfin comme vous l'avez utilisé là d'ailleurs lors de votre exposé, peut avoir ce côté de dramatisation. Mmh. C'est bien clair.
On peut jouer dessus.
Oui.
On peut jouer.
on vient de le voir. Mais c'est vrai quand on voit des nids de rongeurs au milieu d'archives. D'illustration d'un éditeur réputé, bon, ça fait toujours un certain effet. Dans le cas de personnes physiques, moi j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer certains cas assez dramatiques encore, ou des valises où il était indiqué à détruire après ma mort, ou des choses comme ça. Mais j'ai eu la chance de, en une occasion, avec Francis Lacassin, de préparer, la collecte post-mortem. Ce qui m'a pris d'ailleurs 3 semaines dans son appartement et on a fait un reportage photographique assez précis et bien sûr à noter. Et de ce point de vue, j'avais quelques questions à vous poser, c'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui concerne la bibliothèque qui est en quelque sorte passive, la bibliothèque des ouvrages reçus avec envoi autographe, est-ce qu'elle était regroupée ou est-ce que, par exemple, lors de votre relevé, vous avez pu déterminer où se trouvaient ces bibliothèques passives ou non ? Est-ce qu'elles étaient disséminées ? Enfin, c'est le genre de choses qu'on peut faire à ce moment-là.
Pour les ouvrages, elles n'étaient pas spécialement disséminées, ne serait-ce que parce que, alors là, et ça je l'ai su qu'après, parce que, en continuant l'enquête, c'est qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en face de la place, donc il y a la fac de droit, et comme il avait occupé l'appartement, il a pu bénéficier d'une cave que Marthe Lebras a eue même sous la fac de droit, là, Paris 1, jusqu'aux années 80. Et en fait, cette cave a servi de déstockage pour la plupart de ce type de livres. Donc en fait, j'en ai trouvé très peu de purs envois, je veux dire, vraisemblablement, sans forcer l'interprétation, entre autres parce que cette cave en plus a été vidée en continuant l'enquête sans que Marthe Lebras le sache, parce que là elle était vraiment trop âgée, au début des années 90. Donc, mais là, voyez, il y a toujours des, si j'ose dire, des souterrains, voilà, il y a toujours des échappatoires, parce que comme un des grands problèmes, c'est le stockage, et c'est le problème de tout le monde, surtout pour les... effectivement, là en l'occurrence, du coup, c'est finalement un ensemble relativement... sélectionné, entre autres parce qu'il y avait ces déstockages, la maison de la ville Savary servant aussi elle-même de déstockage.
Mais il est vrai que c'est quand même... bon, il y a plusieurs types de bibliothèques que vous avez identifiées lors de la collecte. Bon, il y a des bibliothèques de travail, là on l'a vu essentiellement. Il y a des bibliothèques personnelles, où là ça peut être une bibliothèque de loisirs, de... Voilà, et également une bibliothèque passive avec les envois. Donc les gens vous envoient les choses, on a toujours un peu de mal à s'en débarrasser, enfin même si on n'arrive pas forcément à couper l'exemplaire en temps et en heure.
Oui, puis il y a les envois qui deviennent des envois passifs, qui deviennent actifs. Je pense que c'est le cas par exemple de la thèse de Brodel.
Oui.
C'est-à-dire que bon, peut-être que c'était un envoi passif au début, mais en 1949, puis Brodel devenant le gouverneur de l'école des hautes études, bon, bah forcément on a plus de mal à jeter ça à sa tête. Enfin,
alors, de mon côté, je voulais simplement également vous apporter une petite confirmation sur le côté « le plus précieux se trouve sous le lit ». C'est quelque chose que j'ai régulièrement observé aussi. C'est assez étonnant. Enfin bon, ça fait partie des choses que vous indiquiez comme étant évidentes, mais toujours bonnes à dire. Et en termes d'historique de la conservation, pour prendre un terme un peu spécialisé, il est clair que toutes les indications qui sont rassemblées lors de la collecte sont absolument cruciales quand il s'agit après de faire la description des documents en question. Tout en sachant qu'effectivement, les questions de place sont extrêmement importantes et que pour les imprimer, malheureusement, il faut faire des arbitrages assez terribles parfois. Je vais passer la parole à la salle maintenant.
Juste je précise, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, qu'effectivement, alors, pas cette sélection de photos, mais globalement, à terme, parce que le fond n'est pas encore traité, il est d'ailleurs de l'autre côté de la rue entre parenthèses, et ça représente 160 cartons, donc au total c'est quand même assez beaucoup. Il est vraiment physiquement là, à moins de 100 mètres, en attente de traitement. Mais effectivement, tous les documents que j'ai pu constituer, cartes, enfin, plans, etc., font partie, non pas du fond, mais sont destinés à être associés au fond, enfin si, d'être les archives de la collecte. Et donc, et pour l'instant aussi, l'ordre de, sinon de classement du fond, privilégie encore l'espace, c'est-à-dire que sans pouvoir être dans l'idéal, enfin l'espace de rangement en fait. Donc c'est comme si, vu qu'il y a à peu près des cours, il y a quelques zones de concentration typologique des documents, mais il y a une telle variété que quasiment pour l'instant, l'ordre...
peut être restitué en fait.
Voilà, l'ordre de classement peut être restitué, peut constituer finalement un cadre de rangement sur la longue durée, qui finalement n'est pas... plus, et je réponds aussi à ce que disait Philippe tout à l'heure, n'est pas forcément plus mauvais qu'un ordre thématique. Parce que si je voulais remettre tout dans l'ordre chronologique, par exemple, parce que ça pourrait être sympathique, mais là, c'est l'irrespect des fonds absolu. Finalement, non seulement ça prendrait un énorme travail, mais ça n'aurait pas spécialement d'intérêt, parce que ça couperait tous ces liens immatériels ou devenus immatériels, et que je ne suis pas tout susceptible, moi, de voir ou d'avoir vu. Parce que tel ou tel spécialiste va dire, mais tiens, moi, Innocent 4, ça me dit quelque chose, mais peut-être que Innocent 5, ça ne me dit plus rien. Et tel spécialiste qui dira, mais oui, mais le fait que là, Innocent 5 soit associé, je ne sais pas, moi, avec Bernard, je ne sais pas quoi, c'est pas sur la même étagère. On ne peut pas voir tous les liens. C'est pour ça qu'aussi, il y a aussi cette espèce de potentiel de l'enregistrement qui fait que, mais là, c'est le propre de... c'est presque une sorte de probabilité.
Donc, on qui permet un feuilletage après, voilà. Effectivement. Voilà. Un browsing au sens strict. Pour les critères de tri qui ont été retenus pour les imprimés notamment, parce que là, il y avait quand même des grandes masses d'imprimés. Est-ce que vous en avez et lesquels?
Tout à fait. Alors, en fait, les critères, comme je l'ai évoqué un instant, le destin de la bibliothèque et des archives n'a pas été tout à fait le même. Il y a une chose qui m'a échappé, si j'ose dire. Trouver un autre partenaire pour la bibliothèque, donc en l'occurrence c'est l'Université de Sceaux, mais derrière, il y a en fait une convention qui va être signée entre le HESS et l'université de Sceaux, pour que, non pas pour qu'il y ait une reconnaissance mutuelle d'un même fonds, enfin si, d'un même fonds Lebras, et pour qu'il y ait au moins au minimum un échange d'informations entre les institutions qui y préservent. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'y faire rentrer la Cato, enfin l'Institut catholique qui avait le vieux fonds. Donc il y a aussi ces solutions-là. Donc déjà, première réponse à votre question, il faut voir que matériellement, le gros, c'est-à-dire les livres de droit, et là pour le coup, ils ont pris tout ce qui était dans la pièce principale, donc là, bon, voilà, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de tri à faire compte tenu de l'antiquité, il y avait quand même 800 volumes, donc on arrive au 19e.
C'était à noter.
À noter, oui, tout à fait. Alors, ils se sont engagés dans le traitement, malheureusement, je ne peux pas être à Sceaux. Ils se sont engagés dans le traitement, justement, à relever les annotations, à les conserver, etc. Bon. Et surtout, à ne pas fondre le fond de livre dans leur bibliothèque, à eux. C'est la base. Enfin,
c'est le danger.
Voilà, c'est le danger, mais ça fait partie de l'engagement pour l'acquisition. Voilà. Par ailleurs, pour les livres de sciences sociales, mais là, ça a été chemin faisant, Hervé Lebras qui s'est déclaré, parce que tout d'un coup, il s'est dit, bon, je vais donner à l'EHESS, mais ça, c'est de la politique interne de la maison. Il faut quand même que je donne quelque chose à la MSH, c'est-à-dire à la Maison des Sciences de l'Homme, enfin, la Fondation. Donc, du coup, Martine Ollion est venue.
Je ne m'appelle pas.
Non, je sais bien. Non, mais comme c'est... Je sais que c'est
une collègue.
Voilà, c'est une ancienne...
Pour vous expliquer.
Voilà, personne qui a travaillé à l'IMEC. Non, mais... Non, c'est pas votre nom caché, d'accord. Le pseudo, en fait.
Non, c'est pas sur Facebook.
Donc, effectivement, est venu faire une prise, puisque j'ai vu que c'était le mot aussi tout à l'heure. Alors, il restait un fond, et c'est là où je m'en veux un petit peu. J'étais trop confiant, et j'étais trop confiant sur le, comme je travaillais le dimanche, sur la temporalité. Et il se trouve qu'une des filles, par ailleurs très sympa, a cédé à une de ses copines aristocrates qui voulait faire de la dame patronesse et qui a donc distribué pas tout ce qui restait, mais qui est venu à un moment où j'étais pas là. Et donc il y a une perte. Mais là, je veux dire, on peut. Là,
c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure.
Du coup,
les descendants quand même voulaient se vendre une partie de la bibliothèque.
Voilà. Donc moi, comme je les ai un petit peu j'ai un peu défait l'argument de la vente. Surtout, j'ai été bien aidé par des libraires qui ont fait des évaluations, des sous-évaluations, des libraires que je ne contrôlais pas. Hein, mais ça vaut le coup presque là, on comprend que tout. Voilà. qui ont fait des évaluations tellement basses, mais vraiment tellement basses, que du coup, ça valait plus le coup ça a permis de développer un argumentaire quasiment de donation de la bibliothèque avec juste une petite compensation, mais vraiment d'ordre symbolique, histoire de dire que c'est pas complètement, mais qui partageait en plus en 6. En fait, revient à même pas 2 000 euros par personne, quoi. Donc c'est vraiment ridicule. Enfin, c'est vraiment symboliquement le dernier fil qui est resté pour dire on n'a pas tout donné, quoi. Mais en dehors de ça, effectivement, il y a donc c'est pour ça qu'en termes de critères de tri sur les livres, vu que la cave avait déjà été vidangée 15 ans avant, sans que évidemment je on n'a quasiment rien trié, en fait, parce que plus cette opération de dame patronesse qui était.
On est malheureusement obligé d'arrêter. Vous êtes invités à déjeuner. Suivez-nous. Tous invités, vous pouvez tous venir. Et retour à 14h30.
Au dôme.
Où ça?
Au dôme.
Tu veux dire, on retourne au 54? Ah, d'accord, à la cantine.
Non,
je sais pas.
Alors,
il est tout parce que mon ami est ferme. Ah oui, d'accord, mais
je suis obligé.
Ben malheureusement, je ne peux pas.
La question qu'il faut poser, c'est quelle unité de mesure, c'est important.
Bah oui, parce qu'il y a l'autre maison. Le problème, c'est que c'est plutôt l'unité de la démesure. Ah non, mais je suis d'accord. Non, mais. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est l'unité de mesure, l'unité de surface. Enfin, mais aussi, le problème, c'est que tu découvres les choses au fur et à mesure. Le problème, c'est que tu as rarement la... Tu vois ce que je veux dire, le coup de la cave, par exemple.
Si je l'avais su plus tôt... Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je connais.
Parce que moi j'ai fait la Daniel. D'accord. Quand il a déménagé, tout le Provence. C'est ça. Enfin, j'avais appris ça. D'accord. Par contre, j'ignorais que c'était. Allez, on.
Non. Oui, oui, oui. Juste, il faut que je range le matos.
Ah, à l'IMEC, pardon, excuse-moi. Ah oui, moi, ça serait super. Parce que j'avais vu avec Nathalie pour l'histoire de Bibi. Là, il fallait que, oui, parce qu'on a fait une petite opération Bibi l'an dernier. Non, mais en fait, c'est surtout qu'en fait, il y a 28 boîtes qui ne sont pas classées. Ça, c'est pas qu'elles ne sont pas classées, mais elles sont classées. Bah, attends,